Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h30, tout pile, sur RMC et BFM TV. Deux invités dans le face-à-face ce matin. On est ensemble jusqu'à 9h pour mieux comprendre les deux enjeux, les deux forces qui vont mécaniquement s'allier tout à l'heure pour faire tomber le Premier ministre. C'est d'abord vous qui répondez à mes questions, Éric Coquerel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici ce matin, au matin donc de cette motion de censure. Tout à l'heure, c'est Jean-Philippe Tanguy du RN qui vous succédera. Et au fond, c'est l'ordre qui prévaudra cet après-midi dans l'hémicycle, puisqu'Éric Coquerel, vous allez être celui qui défendra à la tribune la motion du Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire la motion qui devrait l'emporter et faire tomber le Premier ministre. Il ne vous a pas convaincu hier soir, Éric Coquerel ?
Ah non, je l'ai même trouvé assez pathétique, pour tout vous dire. Dans cette manière de manifestement vouloir s'accrocher finalement à ce poste de Premier ministre dont il disait que ce n'était pas forcément lui qui l'avait voulu, mais qu'il répondait à une espèce de mission, y compris jusque dans des appels, j'ai même vu sur tweet quasiment au RN sur des valeurs qu'on suppose communes pour dire au RN de ne pas voter notre motion. Donc il y a quelque chose qui, j'allais dire, où il montre à nouveau une faiblesse, mais ce qui est normal, parce qu'en réalité son problème c'est une légitimité qu'il n'a jamais eue du fait d'avoir aucune majorité à l'Assemblée, même plutôt une armée en déroute qui le soutient, mais aussi la volonté coûte que coûte de maintenir la politique pour laquelle il a été choisi, c'est-à-dire une politique qui avantage les plus riches, très inégale. Voilà, j'ai vu Monsieur Barnier finalement en homme de droite peu conciliant.
Éric Coquerel, vous vous rendez compte quand même que vous avez effectivement entre les mains, vous, tout à l'heure, la chute du gouvernement, le saut vers l'inconnu, comme le titre à la plupart des journaux depuis hier. Et vous parliez à l'instant de la question des Français, du pouvoir d'achat. La conséquence mécanique, c'est ce qu'a dit Michel Barnier hier, ça va être une hausse d'impôts pour la plupart des Français.
Alors déjà, Apolline de Malherbe, sachez une chose, c'est que je sens ô combien la responsabilité qui nous incombe et qui m'incombe, mais j'ai l'impression que la grande majorité des Français dont parle sans arrêt M. Barnier sont derrière nous. Hier, il y avait les chauffeurs de taxi qui étaient mobilisés devant l'Assemblée nationale.
À Marseille et une partie à Paris.
Je peux vous assurer qu'ils souhaitaient la chute du gouvernement Barnier, tout simplement parce qu'ils espèrent que du coup, il y aura une autre proposition de budget qui tiendra compte de leurs revendications. Demain, ce sera les enseignants, la fonction publique.
Une grève très suivie, voilà. Qui s'annonce très suivie, effectivement, dans les
écoles. Et si on en croit les études d'opinion, mais si on en croit aussi les élections de juillet, les gens ne veulent plus de ce gouvernement et surtout, ils ne veulent plus de cette politique. Voilà, parce qu'ils ont bien compris une chose, c'est que c'est cette politique qui entraîne le pays dans le mur.
On va revenir sur les conséquences politiques, effectivement. Qui, après Michel Barnier, qui peut-être après Emmanuel Macron, dont vous continuez à demander également la démission. Mais Éric Coquerel, sur cette question des impôts, qu'est-ce que vous dites aux 380 000 Français qui vont basculer mécaniquement,
c'est faux. Et donc, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien.
C'est faux. C'est faux. Il en appelle à cela.
C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ment, et le problème, c'est que c'est pas bien de jouer aux alarmistes, de dire c'est le chaos économique. Regardez, les taux d'intérêt sont comparables à la Grèce, ont même expliqué qu'en réalité...
L'inquiétude sur les marchés dont nous parle effectivement
Michel Barnier. Mais ils ont même expliqué que nos taux d'intérêt sont inférieurs à ceux pratiqués il y a un an vis-à-vis de la France. Bon, c'est pas bien de laisser penser que si, parce que c'est dans le cas où il y a ce qu'on appelle, vous savez, la fameuse loi spéciale qui permettrait juste de passer la fin de l'année, en réalité, l'an prochain, s'appliqueraient les barèmes d'impôts de 2024, donc des gens qui ne payaient pas d'impôts les paieraient. Tout simplement, pourquoi c'est pas vrai? Parce que la règle est très clairement expliquée. C'est un texte qui vise à, en gros, s'appliquer, allez, un mois, six semaines au maximum.
Bah, après, on discutera du budget. Il y a un autre budget.
Non, mais il y aura
y
un autre gouvernement.
Que les mêmes
il n'est pas prévu, je vous le dis, il n'est pas prévu que le budget 2024 s'applique au 2025. Il est prévu juste que ça permette de passer la fin de l'année. Donc, arrêtons de faire peur. Il y a même des amendements qui ont été recherchés, qui ont été faits sur la dernière loi spéciale qui a été appliquée, où on s'aperçoit même qu'il est peut-être possible de bouger les barèmes de l'impôt. Donc, j'allais dire que cette façon d'effrayer, de laisser penser que si le projet de loi de finances de la sécurité sociale n'est pas appliqué, il n'y aura plus de carte vitale, alors même que les bénéficiaires, ce sont les retraités qui verront leur retraite indexée, puisque c'était prévu comme ça dans les textes existants, c'est pas bien.
Non, voilà,
c'est
si
pas bien, je vous le dis très clairement, ça ne rend pas service au pays.
Si on est tout à fait précis sur les retraités, les pensions de retraite les plus modestes allaient de toute façon être réindexées.
Oui, mais là, tout le monde va être indexé.
Oui, donc voilà. En fait, finalement, tant mieux pour les retraités les plus riches.
Ah ben, pour le pouvoir d'achat des Français, ce qui est en train de se passer, je parle sur le projet de loi de finances de sécurité sociale, est plutôt positif, oui.
Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est-à-dire que là, à 16h, vous serez à la tribune, vous allez défendre cette motion de censure, vous dites que vous avez parfaitement conscience de la responsabilité qui pèse sur vos épaules, vous n'êtes pas convaincu par les appels, donc justement, à la responsabilité de Michel Barnier hier. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est-à-dire que quand même, vous allez avoir les voix du RN, dont vous-même vous dites dans votre texte, c'est un peu paradoxal quand même, qu'ils sont vils, d'extrême droite, vous les
On parle de leur obsession, oui.
Oui.
Bah, vous savez qu'on n'est pas d'accord avec le RN.
Mais
oui.
En même temps, vous voulez leur voix.
Mais c'est, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas une alliance. Le RN se rallie à notre motion parce qu'il estime aussi qu'il faut faire tomber le gouvernement Barnier. Et personne, nous, à l'inverse de M. Barnier, on ne se met pas à supplique le RN en sur leurs valeurs pour dire finalement votez notre texte,
oui,
on
mais
est
ça
d'accord.
Fait un petit peu
nous, c'est pas le cas.
À ceux
nous,
qui c'est pas le cas. Avec une pince à linge
non,
sur
non,
le nez.
Mais nous,
on dit bien quand vous déteste.
Mais ça, il faut vous poser la question au Rassemblement national.
Je le fais dans un instant, juste après.
Pour notre part, c'est notre motion qui passe. Et on ne va pas inventer démagogiquement des accords avec le RN. On sait que c'est nos adversaires. D'accord? Donc là-dessus, mais il y a quelque chose qui va tout à l'heure se jouer. C'est que, il vous a pas échappé qu'en juillet, ce gouvernement, le programme qu'il porte, était ultra minoritaire dans le pays. Donc arithmétiquement, pour le faire tomber, c'est ça qui va s'exprimer dans l'Assemblée, parce que ce gouvernement n'a jamais eu une légitimité, et la responsabilité en incombe d'ailleurs plus à M. Macron qu'à M. Barnier. Vous parlez de la suite, je vais y venir à votre question. La suite, c'est qu'on ouvre un espoir en faisant ça, parce qu'il n'y a pas de possibilité, la situation est bloquée, tant que ce gouvernement ne tombe pas. Et après, c'est M. Macron qui a la responsabilité des choses. Il pourrait, par exemple, appeler un gouvernement NFP. On a montré à l'Assemblée qu'on était capable de faire passer des amendements, de bouger le budget dans le bon sens. Et après tout, on pourrait très bien essayer d'appliquer ces amendements d'ici la fin de l'année, de faire passer un budget. J'en doute. J'ai compris que c'est pas ce qui se
fait. Non, mais soyons tout à fait honnêtes. Même s'il le faisait,
je suis très honnête.
Vous n'auriez pas de durée de vie plus longue que celle d'un Michel
Barnier. Ça vous en savez rien. Mais ça serait à nous de le tenter. Ah ben, tout simplement parce que, à l'inverse de M. Barnier, nous, quand nous présentons nos textes, nous n'avons pas 20 à 30 députés en plus divisés entre eux pour soutenir nos textes.
Là,
nous avons
180. Là, vous parlez de ce socle commun.
Bien sûr, nous avons près de 200 députés
qui est quand même
la coalition la plus forte de l'Assemblée, et nous avons été capables d'aller chercher des majorités dans l'Assemblée sur nos textes. Donc ça, on l'a montré.
Sauf que Éric Coquerel, il y en a d'autres qui, au sein même du NFP, ont commencé à imaginer une autre stratégie. Si j'en crois le chef du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, qui encore ce matin dans le journal Le Figaro appelle les partis, je cite, de l'arc républicain, c'est beaucoup plus large que le NFP, hein, si je comprends bien, à se mettre autour d'une table et à faire preuve de compromis autour d'un certain nombre de textes. Comment vous réagissez à ça?
Je pense que c'est fictif et que c'est une impasse dans laquelle aujourd'hui conduit le Parti Socialiste. Je vous
explique. Ça veut quand même dire que les socialistes regardent plutôt ailleurs. Ils ne regardent pas tellement en votre direction. Ils espèrent rallier d'autres.
Et si les socialistes prennent ces responsabilités, on verra après la motion de censure. Je pense qu'ils se trompent complètement parce que les électeurs qui ont voté majoritairement pour le NFP, ils ont voté pour le NFP pour le gramme de rupture. Si on commence à leur dire, ce que vous avez voté, ça ne nous pose pas de problème. Et on veut revenir aux années Hollande, c'est-à-dire une espèce de gauche d'accompagnement du système. Je doute que c'est beaucoup d'avenir électoral pour le Parti Socialiste. Mais ils peuvent changer le Parti Socialiste. Moi, je leur dis une chose, ce qu'ils proposent là, c'est une fiction. Et vous savez pourquoi c'est une fiction? C'est que, par exemple, dimanche soir au Sénat, il y avait des amendements qui avaient été votés, des amendements de gauche. Qu'est-ce qu'ont fait les forces du socle commun auxquelles M. Vallaud fait des avances? Ils ont décidé d'annuler en deuxième lecture tous ces amendements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la moindre idée de compromis. Et de la même manière, je vous fais remarquer que tous les amendements que nous avons votés en première lecture, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, sur le projet de loi de l'État, il y a quel est le parti de ce socle commun qui a exprimé l'idée que peut-être on pourrait retenir certains de ces amendements? Aucun. Ils sont sur des projets politiques et économiques totalement différents d'une autre. Et ça s'est vu aussi sur la réforme d'abrogation des retraites sur lesquelles ils ont fait de l'obstruction.
C'est que le nouveau Front populaire est quand même déjà divisé. C'est-à-dire que, OK, vous allez voter avec le RN, avec eux, tout à l'heure une motion de censure.
Très franchement, je ne suis pas sûr que nos électeurs soient divisés. On verra bien.
Là, je parle des responsables politiques.
D'accord, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui nous ont donné une majorité. Je ne suis pas sûr, peut-être que le Parti Socialiste va, s'isoler, se diviser, j'en sais rien. On verra bien, parce que là, pour l'instant, c'est des déclarations, on verra la suite.
C'est le chef du groupe socialiste à l'Assemblée.
Je vous réponds, vous avez pas remarqué.
Moi,
je les appelle à la raison, on verra bien. J'espère que, avec nous, ils réclameront une chose, ils continueront à pousser pour un gouvernement NFP, mais plus encore, et c'est là où je voudrais en venir, c'est que comme je pense que l'obstacle à un gouvernement NFP, c'est pas le Parti Socialiste principalement, l'obstacle principal c'est Monsieur Macron, qui a toujours dit qu'il ne voulait pas appliquer le programme de la gauche parce que c'est contraire aux intérêts de ceux qu'il défendent, eh bien je pense que la question, et c'est ce que vous avez remarqué tout à l'heure, ça va être davantage maintenant l'avenir de Monsieur Macron. Voilà, si on veut changer les
vous
choses,
appelez
si on
veut bouger les choses, oui, d'Emmanuel
il y a beaucoup
Macron.
De gens, j'ai vu le maire de Cannes, Monsieur Morin.
Oui, alors là vous avez des copains à droite.
Mais parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce pays qui considère, y compris de chez les anciens macronistes, qu'aujourd'hui il est plus un obstacle qu'une solution. Et qu'à un moment donné, quand la situation est bloquée, il faut revenir devant le peuple. On ne peut pas revenir dans un an, ou en tout cas on ne peut pas attendre un an avant de revenir avec une dissolution de l'Assemblée. Donc la solution, c'est des élections présidentielles.
Cette motion de censure que vous défendrez donc à 16h tout à l'heure à l'Assemblée, elle a quand même pour vocation de faire tomber en réalité Emmanuel Macron.
Elle a pour vocation de censurer le pouvoir en place qui impose la même politique économique et que je sache, en dernière instance, celui qui a choisi M. Barnier, celui qui a choisi une majorité qui ne l'est pas et qui se retrouve dans ces difficultés, c'est M. Macron.
Et ceux qui voteront avec vous, c'est le RN. Et justement, Éric Coquerel, merci d'avoir répondu à mes questions. Celui qui poursuit de vils objectifs, selon vos mots, c'est le RN. Je voudrais qu'on accueille Jean-Philippe Tanguy. Je ne sais pas si vous allez vous saluer d'ailleurs, mais il arrive et il vous rejoint.
Je salue Monsieur Tanguy.
Et je vous laisse entrer, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement National. Poignée de main entre LFI et le RN. Jean-Philippe Tanguy, bonjour.
Oui, M. Coquerel est une personne avant d'être partie, Madame de Malherbe. Une personne respectable et avec qui on travaille de manière républicaine.
Et je constate effectivement qu'il y aura beaucoup de travail en commun, en tout cas aujourd'hui, puisque on l'entendait à l'instant, Éric Coquerel va défendre sa motion de censure à 16h, et vous allez la voter, ça y est. Enfin, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de suspense.
Ah oui, bah, Marine Le Pen, Jordan Bardella ont été très clairs. Nos lignes rouges, qui ont toujours été les mêmes, contrairement aux mensonges qui ont encore été répétés, avec, c'est assez triste d'ailleurs, par M. Barnier hier, n'ont pas été respectées, et c'était des lignes rouges très modeste par rapport au programme du Rassemblement National. Donc moi, quand j'entends qu'on a voulu saboter les choses, qu'on a voulu faire de la politique politicienne, je trouve que c'est particulièrement injuste parce que j'étais très présent avec les députés du Rassemblement National lors du débat parlementaire. Tout le monde, c'est public, hein. Monsieur Saint-Martin ne m'a pas adressé la parole pour répondre ou pour proposer un compromis pendant 2 semaines. Et encore...
Ils se sont réveillés un peu tard, quoi.
Mais
ils se sont réveillés tout de même.
Oui, mais Madame de Malherbe, le problème, c'est que faire un budget, c'est compliqué. Donc on peut dire aux gens que ça s'arrange sur un coin de table. C'est pas vrai, c'est un équilibre global. Donc quand on dit, par exemple, oui, les lignes rouges du Rassemblement National coûtaient tant. Non, Marine Le Pen a publié le tableau qu'elle a remis à Michel Barnier lundi, puisqu'il y avait tellement de mensonges qu'on a voulu faire de la transparence. Il y avait 1,6 milliard de recettes ou d'économies de plus que de dépenses. Donc tout cela s'est joué quand même sur des mensonges de la part du gouvernement.
On va revenir sur justement les échanges qui ont eu lieu ces derniers jours et qui n'ont donc pas été concluants avec Michel Barnier. Mais enfin, tout de même, je suis frappée. Éric Coquerel, qui sort à l'instant de ce studio, va défendre tout à l'heure au micro à l'Assemblée nationale une motion de censure dans laquelle il est écrit, je cite, « Alors qu'une large majorité de nos concitoyens et concitoyennes a fait le choix du barrage à l'extrême droite lors des élections législatives, le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions. » Et vous allez signer ça?
Mais non, mais c'est,
et vous allez voter ça?
Mais on va pas voter ça.
Bah si.
Mais non, Madame de Malherbe. Je suis allé vérifier hier parce que vous savez, moi, j'ai un côté bon élève. Le règlement de l'Assemblée nationale, on n'est même pas obligé en fait de déposer un texte pour déposer une motion de censure.
Il se trouve qu'ils l'ont déposé, ce texte. C'est peut-être de la provoque.
Non, mais je vous réponds. On entend, pas vous d'ailleurs, surtout nos adversaires politiques du bloc macroniste, y compris des gens de gauche qui ont essayé de faire ça évidemment pour nous bloquer, dire « elle va voter notre texte ». Non, la motion de censure n'a pas besoin de texte. Le texte, espèce d'artifice, de colfiché pour expliquer une position. Mais nous ne votons pas un texte, on vote la censure du gouvernement. Il peut y avoir des gens de tous bords. Il y aura peut-être même des centristes du groupe Puyot qui votent la censure du gouvernement.
Donc vous allez vous associer aux gens, à des gens qui parlent de vous en disant que vos obsessions sont viles. Vile, c'est hautement méprisable.
Oui, bah je sais, je vous remercie.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que ce que vous reprochez à quand même à Michel Barnier, c'est du mépris. Et non, vous allez voter pour des gens qui disent de vous que vous avez de viles obsessions, c'est-à-dire hautement méprisables.
Non, mais si vous voulez, ce que les uns et les autres disent de nous dans des moments historiques importants, c'est quand même la première censure d'un gouvernement depuis 1962.
Tout à fait.
C'est pas anecdotique. Moi, je peux vous dire, pour avoir assisté à un certain nombre de négociations, que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont la main, sérieuse et la main tremblante pour censurer ce gouvernement, non pas parce qu'ils ne veulent pas assumer leur responsabilité, parce que oui, c'est la vie des gens, c'est la vie des Français.
Ils ont la main tremblante.
Mais heureusement qu'ils ont une main tremblante comme responsable politique. Un main Tremblant, c'est une expression qui vient de Montesquieu pour dire que quand vous avez des responsabilités,
vous
devez agir avec responsabilité. Vous devez
peser le moment.
Vous devez peser le moment. Oui.
Mais est-ce que ça veut dire
nous avons tous en tant que représentants de la nation la main tremblante en faisant tomber un gouvernement de la République. C'est une décision importante.
Est-ce que ça veut dire, Jean-Philippe Tanguy, le mot d'ailleurs a été dit également à l'instant par Éric Coquerel, qui parlait d'une responsabilité dont il était parfaitement conscient. Jean-Philippe Tanguy, vous n'avez pas été sensible aux appels à la responsabilité hier du Premier ministre. Il n'aura pas pu vous faire changer d'avis. Quand même, c'est assez frappant lorsqu'il racontait ses échanges avec Marine Le Pen hier soir. Il a, au fond, expliqué qu'il avait plusieurs fois cédé. Il dit, Marine Le Pen a dit notamment ces derniers jours, il faudrait faire un geste soit sur les taxes sur l'électricité, soit sur les retraites. En tout cas, c'est comme ça que lui l'a compris. Il a donc mesuré les questions et il a décidé d'accéder à la demande de Marine Le Pen sur l'électricité. Et là, Marine Le Pen lui répond, ah ben non, finalement, pas seulement l'électricité, mais aussi les retraites.
Je ne comprends pas cette position du Premier ministre, parce que moi, j'ai assisté à l'entretien entre Marine Le Pen et...
En fait, c'était jamais assez à vos yeux.
Non, c'est faux. Non, mais c'est totalement faux. Donc,
Récit est faux.
C'est totalement faux. Mais c'est clair. En sortant de Matignon, Marine Le Pen a répondu à vos confrères qui étaient dans la cour. Nous avons remis le tableau des lignes rouges, toutes équilibrées, qui étaient un tout, qui étaient un bloc. Il n'y en avait aucune en plus, aucune en moins. On a même fait encore un geste, puisqu'on a allégé les efforts qu'on demandait sur l'Union européenne, parce que c'était compliqué au dernier moment de demander une négociation à l'Union européenne. Donc on a plutôt allégé un certain nombre de demandes, essayé de trouver d'autres sources de financement. Et d'ailleurs, ce qui est assez... ça, finalement, représentatif de la pensée de Michel Barnier et de ce gouvernement, c'est qu'il n'a jamais voulu parler des économies. Ah, ça m'a stupéfait dans les échanges.
C'est-à-dire?
On parlait beaucoup
des dépenses. Il parlait de la question des dépenses.
Oui, nous, on a toujours mis des économies ou des nouvelles recettes sur la spéculation. On parlait jamais des dépenses. Moi, je lui dis, mais monsieur le Premier ministre, vous avez un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui identifie 4 milliards de trésorerie inutile des opérateurs. Faut en prendre au moins 3. On peut en prendre plus. Il ne voulait pas en parler, et c'est d'ailleurs à l'image de ce budget. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, et je finirai là-dessus, hier, c'est que M. Barnier n'a pas défendu son budget, finalement. Il a parlé de grands principes, il a beaucoup parlé de lui, mais il n'a pas expliqué aux Françaises et aux Français, et c'est la deuxième fois en une semaine, la vision. Où est-ce qu'il veut emmener le pays? Pourquoi ce budget? Pourquoi ces économies? Pourquoi ces impôts? Comment redresser notre nation? Rien. Et en fait, c'est vraiment à l'image de ce budget, qui est un mauvais budget, un budget de faillite, et un budget qui ne redresse pas les comptes.
Jean-Philippe,
et finalement,
Tanguy,
on ne parle pas de levier de la censure, qui est quand même cette crise financière
un
de 50
budget,
ans de gabegie.
Mais pas de budget du tout.
Paradoxalement, c'est meilleur qu'aujourd'hui. Alors, c'est vous dire à quel point il est mauvais.
C'est meilleur qu'aujourd'hui quand vous voyez que 380 000 contribuables vont se retrouver à payer l'impôt. C'est pas vrai, ça?
Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, le président Coquerel, j'ai écouté ce qu'il vous disait, vous a bien expliqué pourquoi.
Président Coquerel, parce qu'il est effectivement président de la commission des finances de l'Assemblée. Vous avez raison. Enfin, vous avez beaucoup d'égards les uns vis-à-vis des autres.
Moi, je parle comme ça de tous les présidents de commission. Je parle du Premier ministre avec Monsieur le Premier ministre. J'ai salué la ministre de la Santé dans les couloirs. Je lui ai dit bonjour, Madame la ministre. Il n'y avait pas de caméra. Moi, je respecte les statuts des uns et des autres, d'où qu'ils soient et quel que soit leur parti. Je n'ai pas de raison de mépriser le Monsieur Coquerel parce qu'il appartenir à un parti qui est mon ennemi principal, enfin mon adversaire politique principal, avec la Macronie, et il nous le rend bien.
Il vous le rend bien, mais vous êtes d'accord sur le constat, c'est-à-dire que pour vous, c'est un mensonge, c'est une forme d'agitation des peurs que de dire qu'il va y avoir une hausse mécanique des impôts, que de dire qu'il ne va pas y avoir de revalorisation des salaires des fonctionnaires. Tout cela, ce serait faux?
Tout à fait faux. Salaire des fonctionnaires, c'est totalement faux. Les retraites, c'est dans le code de la sécurité sociale, donc toutes les retraites seront indexées de la sécurité sociale seront indexées au 1er janvier. D'ailleurs, j'ai entendu que vous avez dit, y compris les plus privilégiés. Ce sont les retraites de la sécurité sociale, du régime de base, qui sont plafonnées à 1900 euros bruts. Donc, en net, c'est pas beaucoup, hein. C'est autour de 1500, 1600.
La revalorisation des plus petites retraites était déjà actée, hein.
Oui, des toutes petites.
C'est ça ce que je veux dire. Hein.
D'accord, mais c'est toujours vous savez, le point, c'est dans les détails, en bas de page. Monsieur Wauquiez a annoncé cela. C'était les retraites inférieures au SMIC brut. Donc en fait, ça coûtait que 500 millions d'euros sur 3,5 milliards. Donc il restait
Il a fait mousser ça.
Bien sûr. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup
victoire.
Marché. Moi, je peux vous dire que quand j'ai fait les dîners et les déjeuners des aînés dans ma circonscription, avec souvent des conseillers départementaux de droite, ils étaient plutôt d'accord avec moi pour indexer toutes les pensions que d'accord avec Monsieur Wauquiez pour seulement sauver une toute petite partie des pensions.
Est-ce que vos électeurs vont vous suivre, ou pour certains, il y a eu plusieurs appels, notamment sur RMC depuis hier matin, de nombreux électeurs d'un bord ou de l'autre, mais il y a eu notamment des électeurs RN, principalement des récents électeurs RN, et qui disaient, j'ai eu Frédéric, j'ai eu Isabelle, j'ai eu Stéphane hier, qui disaient, moi j'ai voté RN aux dernières élections, mais on ne m'y reprendra plus, j'espérais d'eux une certaine stabilité.
Mais moi, j'écoute, j'entends les commentaires. Je ne pense pas avoir raison sur tout et qu'on est omniscient. Je leur dis, nous avons pris une position de responsabilité, de vérité. Ce budget, évidemment, les gens n'en mesurent pas forcément, ne connaissent pas les conséquences, puisqu'ils ne sont pas exécutés. Donc, toutes ces impôts...
J'avais un agriculteur dans l'Ain on avait tellement besoin de ce budget.
Mais non, ils ont besoin, les gens ont besoin d'être rassurés, je les comprends. Ils n'avaient pas besoin de 40 milliards d'impôts en plus et seulement 10 milliards d'économies. Ça, je peux vous le garantir. La difficulté, et là où je trouve que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont vraiment été courageux, c'est que c'est toujours difficile de s'opposer à des mesures qui n'existent pas encore. Parce que 40 milliards d'euros pour des personnes qui travaillent dur, qui gagnent entre 1500
ils n'en ont pas encore vu la couleur, en effet.
Ce sont des montants tellement extravagants qu'on n'a pas forcément les échelles et qu'on s'en rend pas forcément compte, mais ça voulait dire 5% de baisse de remboursement des médicaments, donc de la perte de pouvoir d'achat pour tous les retraités, quasiment tous les retraités, même ceux, contrairement à ce qui a été dit, qui gagnaient peu. C'était des hausses de charges sur les entreprises. Moi, j'ai des entrepreneurs qui m'ont appelé aussi, hein. Ils étaient même pas au courant que leur charge allait augmenter de 1,4 milliard, tellement il y a ce récit, hein, cette espèce de mur de mensonges qui essaie d'inquiéter les Français et les angoisser, alors que c'est faux. Bah, on se rendra compte demain qu'il y aura un gouvernement démissionnaire qui sera à peu près le même gouvernement que cet été. On a réussi à organiser les Jeux Olympiques avec M. Attal démissionnaire. Je ne crois pas qu'on ait vu de grosses différences alors quand M. Attal n'était pas démissionnaire.
Et après, Jean-Philippe Tanguy, oui. Est-ce que, comme la France Insoumise, au fond, votre objectif à peine voilé, c'est quand même la démission d'Emmanuel Macron? Si c'est le cas, vous serez déçu. Il a déjà annoncé hier qu'il n'en était pas question.
Ouais, donc vous savez, Emmanuel Macron, il avait dit qu'il n'allait pas dissoudre l'Assemblée nationale.
C'est juste. Hein.
Bon, donc ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Donc vous dites qu'il pourrait quand même démissionner.
Moi, je voudrais vraiment qu'on remette le débat là où il est. Le sujet, c'est est-ce que ce budget permet de redresser les comptes? Est-ce que ce budget permet la justice sociale?
Mais quand même, on le voit bien, votre objectif,
permet de relancer
c'est ça.
La production.
Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas y avoir un gouvernement démissionnaire pendant des semaines.
Bah, c'était le cas cet été. Une fois plus, on a pu faire des choses. Pas assez,
vous préférez un gouvernement démissionnaire à un gouvernement?
Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois de M. Barnier par rapport à 3 mois de M. Attal démissionnaire? Rien du tout. Quelles réformes ont été lancées? Quelle ambition? Rien. C'est factuel. C'est une grosse déception, d'ailleurs, je pense, pour beaucoup de Françaises et de Français.
Faut-il un gouvernement technique alors?
Mais c'est une forme de gouvernement technique qui n'avait
pas. Ce sera mécaniquement une forme de gouvernement
technique. C'est une appellation.
Michel Barnier pourrait rester.
Pour des gens qui ne savent pas faire de politique.
Michel Barnier pourrait rester Premier ministre démissionnaire pratiquement jusqu'à l'été.
Ce serait quand même un affront démocratique. Mais on peut trouver quelqu'un, comment dire, qui présente un meilleur budget, sans ambition politique particulière.
On parle d'un certain nombre de personnes qui ont eu des relations quasi amicales avec vous, Sébastien Lecornu.
Amicales, ça c'est pas grave.
Ils ont dîné ensemble.
La courtoisie, oui. Le respect, la courtoisie et surtout une capacité à faire des économies et à nous proposer un budget qui n'est pas 5,5% de déficit.
Et vous signerez une motion de censure qui parle de vous comme de ville.
Mais pendant qu'on discute de beaucoup de choses, hier, la loi finale pour les finances de 2024, encore 6 milliards de déficit en plus. Et aujourd'hui, le dérapage du budget qu'on nous propose, on est déjà à 12 milliards de dérapage alors qu'il n'a même pas commencé à s'exercer. Donc, est-ce qu'on peut aussi parler des finances publiques? Nous sommes en crise financière, nous sommes en crise budgétaire. Monsieur Barnier a beaucoup parlé de lui, c'est son droit. J'aimerais qu'on parle du budget et surtout des Françaises et des Français.
Et
où est-ce que tout ce petit monde veut nous emmener?
Et ce sera la suite, effectivement, après donc ce séisme politique annoncé cet après-midi, puisqu'on l'a bien compris. Vous avez tué tout suspense. Il y aura bien ce vote de la motion de censure tout à l'heure. Merci Jean-Philippe Tanguy d'être venu ce matin à mon micro. Je rappelle bien sûr que vous êtes président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, député de la Somme. Et merci aussi à Éric Coquerel d'avoir commencé cette interview du face-à-face. Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances, c'est lui qui défendra cette motion de censure cet après-midi.